Je vous ferai mon petit discours d'adieu tout à l'heure, pour ceux qui voudront bien faire partie de la fête. Pour l'instant, je voudrais vous parler de la première lecture, une lecture tout à fait extraordinaire, qui a été lue par un de nos vaillants servants de messe. Cet extrait d'un livre de sagesse. Les livres de sagesse, on a peu l'occasion de les entendre dans la liturgie. Ce sont des textes relativement récents, moins 200 avant Jésus-Christ, par rapport au reste, évidemment, des textes de l'Ancien Testament. Et dans la lecture que vous avez eue aujourd'hui, il y a des choses absolument extraordinaires. C'est un style poétique, bien sûr. On nous dit que, auprès de Dieu, alors qu'il n'y avait que boue primordiale, qu'il n'y avait que les éléments pêle-mêle de la matière, il y avait déjà, auprès de Dieu, la sagesse éternelle. Comme s'il y avait une intuition, et dans ces livres de sagesse, une intuition de la Trinité. Que Dieu ne pouvait pas être seul. Il est un sans être seul. Mais alors, ce qui est extraordinaire, ce sont les attributs de la sagesse qui sont donnés dans ce petit texte que vous avez entendu. On nous dit, quand les abîmes n'existaient pas encore, avant les siècles, quand il y avait les éléments primitifs du monde, pêle-mêle, quand les cieux n'étaient pas encore établis, j'étais là, nous dit la sagesse. Nous savons y reconnaître l'intelligence de Dieu, le Logos éternel, celui qui s'est fait chair, celui qui est venu se faire l'un d'entre nous pour nous conduire en Dieu. Et le Logos éternel, deux détails tout à fait extraordinaires, prenait ses plaisirs avec les hommes. Les hommes et les femmes. Alors qu'ils n'étaient pas encore créés. Il n'y avait que boue primordiale. Dieu n'avait pas encore pétri l'univers pour y laisser son empreinte. Et déjà, il y avait le projet qu'il y aurait dans cette création quelqu'un qui puisse répondre au plaisir de Dieu. C'est tout à fait extraordinaire. Ça veut dire que Dieu prend plaisir à nous fréquenter, que l'intelligence divine, que le Logos éternel a de la joie à nous fréquenter. C'est absolument fabuleux. La deuxième chose fabuleuse qu'il y a dans ce texte des Proverbes, dans les livres de sagesse, et même dans le livre de la Genèse, chapitre 1 et 2, c'est qu'on a là une très belle théologie de la création, le cosmos. En effet, pour l'instant, on nous dit que tout est pêle-mêle, boue primordiale. Les montagnes n'existent pas, le ciel n'existe pas. Et pourtant, nous dit le livre de la Genèse, Dieu a créé le monde. Comment a-t-il créé le monde? En le pétrissant de ses mains. Vous vous souvenez? Alors, c'est évidemment une manière poétique de parler. Évidemment. Alors un certain nombre de gens se disent « Ah, puisque c'est une manière poétique de parler, c'est donc pas vrai. » Avez-vous remarqué que c'est tout le contraire qui est juste? C'est-à-dire que quand nous avons quelque chose à dire d'essentiel, la poésie vient au secours. Car nous ne savons pas parler correctement avec les mots ordinaires de ce qui nous dépasse infiniment. Alors nous faisons appel à la poésie, à la beauté, à la musique. Et donc, non seulement c'est faux de dire que parce que c'est une manière poétique, ce sont des rêveries insensées, mais c'est l'inverse qui est vrai. C'est parce que ce sont des poésies qu'il faut tendre l'oreille. Et que là, nous avons du sens plus que dans un simple discours. Et dans ce discours poétique, on nous dit donc que Dieu pétrit ce magma et qui va en faire l'homme. Et donc, il y a en toute chose créée l'empreinte de Dieu. Dans l'univers tout entier, il y a l'empreinte de Dieu. Vous savez, nous ne sommes pas propriétaires de l'Esprit Saint. L'Église n'est pas propriétaire de l'Esprit. L'Église est le corps du Christ. Mais le corps du Christ n'est pas l'Église. L'Église est le corps du Christ. Si elle n'est pas ça, elle est rien. Si elle est une institution, elle n'intéresse pas. Si elle est le gendarme de la morale, elle nous ennuie. L'Église est le corps du Christ. Mais le corps du Christ n'est pas l'Église. Il est infiniment plus grand. Le Verbe éternel a parlé dès la création. Les mains de Dieu ont pétri même la matière. Et c'est Saint Cyprien, au premier siècle de l'Église, qui disait que le Logos, c'est-à-dire l'intelligence créatrice, avait ensemencé le monde entier, même la matière, les rochers, les arbres, les fleuves, les animaux, le ciel, tout porte la marque de Dieu. Et vous savez, il y a un père de l'Église, un cappadocien qui s'appelle Grégoire de Nazianze, qui dit « L'universel gémissement tend vers toi ». Il ne parle pas de la plainte de la souffrance. Il parle d'un universel désir de Dieu. La matière désire Dieu. Le cosmos désire Dieu. La nature veut Dieu. C'est pourquoi elle est belle. Parce qu'elle tente de chanter les louanges de son Créateur. L'universel gémissement tend vers Dieu. Peut-être que vous savez, enfin certains d'entre vous le savent, enfin j'espère la plupart, au bout de 8 ans quand même, je suis professeur de philosophie au séminaire. Bien figurez-vous que cette semaine, vendredi, j'ai fait un cours sur les religions premières. C'est quoi les religions premières ? C'est le phénomène religieux d'avant les religions instituées. Et ça grouille partout. Il y a une espèce de bruissement universel du religieux. Sauf qu'il se traduit sous forme de paganisme, d'animisme, de chamanisme. Et alors, j'expliquais aux séminaristes que c'est ainsi que Dieu a prédisposé le monde. C'est ainsi que Dieu a préparé ce monde pour recevoir la révélation du Fils de Dieu. Le Logos, celui qui a créé ce monde, celui qui a fait ce monde, celui-ci s'est fait l'un de nous, Jésus de Nazareth. Alors il me disait, il protestait, il disait, mais c'est du paganisme, il faut se débarrasser de tout ça. J'aurais répondu, si vous voulez vous débarrasser des traces de Dieu dans le cosmos et dans l'universel gémissement, libre à vous. Mais à mon avis, si Dieu a parlé dans les choses, au lieu de les mépriser, nous ferions mieux de tendre l'oreille. Et je crois que le cosmos lui-même a tout à gagner à ces séquelles de paganisme. Car depuis que nous nous sommes soi-disant libérés de ce paganisme, le cosmos a sacrément morflé. Non. Depuis que nous croyons que nous sommes maîtres et possesseurs du monde, Gaïa a souffert. Les arbres ne sont plus que de la matière. Les oiseaux ne sont plus qu'utiles. Nous avons réduit ce monde, ce cosmos, à de l'utilité, à des matériaux à explorer. En vérité, non, le cosmos n'a pas gagné quand on a voulu éradiquer l'empreinte de Dieu en toute chose. Alors les séminaristes ont une fâcheuse tendance, qui est la vôtre probablement aussi, la tendance, la tentation de la pureté. Ils disent, il faut se débarrasser de ces séquelles de paganisme, il faut se purifier de ces traces de mauvaise religion. Il n'y a pas de mauvaise religion. Nous croyons bien sûr que le christianisme est l'accomplissement. Mais s'il est l'accomplissement, il est l'accomplissement de quelque chose. Il est l'accomplissement de l'universel monté vers Dieu. Et ce n'est pas parce que nous prétendons être chrétiens que nous pouvons mépriser ce qui nous a permis de l'être. Voilà ce qui est dit, vous voyez, dans ce récit de la sagesse. C'est extraordinaire. Et pour conclure, je voudrais juste vous dire que il faut que vous soyez en quête de cet esprit créateur qui pénètre toute chose. Il faut que vous ayez cette acuité visuelle et spirituelle pour voir la trace de l'esprit créateur en vos frères, dans les événements de ce monde, dans la beauté des choses. C'est ce que nous avons de mieux à faire. Et quand vous voyez l'œuvre du Logos travailler le monde, alors chantez une action de grâce. C'est ça votre boulot. Votre boulot ne consiste pas à donner des leçons au monde. Votre boulot ne consiste pas à dire que nous sommes les purs, les vrais, les seuls. Notre travail consiste à chanter la louange de ce monde. Et comme la matière est muette, comme beaucoup de nos frères humains ne savent pas chanter cette louange, chantons-la pour eux. Nous sommes en quête de l'Esprit Saint. Croyez que l'Esprit Saint est en quête de vous. Croyez qu'il vous cherche. Laissez-le vous trouver.